Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Franck Kadze.
Passons directement au titre. 21 ans de prison ferme, c'est la peine qu'a finalement écopé Aimé Ilambona, qui avait été surpris avec un cadavre dans son véhicule à Gitega. Trois de ses co-accusés ont été condamnés à la prison à vie. Une double taxe met des agriculteurs de Muyinga en colère. Ils se plaignent de payer deux fois pour des produits qu'ils vendent au marché central de la province. Les méfaits du Covid-19 n'épargnent pas les commerçants du camp de réfugiés de Mahama au Rwanda. Ils estiment leur manque à gagner à 10% par rapport à la période d'avant. Vous êtes bien sur la radio Inzamba Gateka Kawe. C'est le journal du 7 janvier 2021. Théodomir Manilambona est aux manettes. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Je vous le disais dans les titres, le procès d'Aimé Ilambona a été repris mercredi. Le responsable adjoint des Imolakoulé de Gitega, récemment surpris avec un cadavre humain dans son véhicule, a finalement écopé de 21 ans de prison ferme. Trois de ses co-accusés ont, quant à eux, été condamnés à la prison à vie. Ils comparaissaient devant la cour d'appel de Gitega. Parfait Moudassigana nous en dit plus.
Devant la chambre criminelle de la cour d'appel de Gitega, le substitut du procureur général près la cour a déploré les manquements dans un jugement rendu par le tribunal en date du 28 décembre dernier. Selon nos sources, un représentant du ministère public a déploré des peines parachutées sans motivation ni fondées sur aucune base légale. Les mêmes informations indiquent que 4 individus ont été également reconnus coupables des coups et blessures ayant entraîné la mort de M. Ezekiel Ndaysenga, tué en date du 26 décembre dernier. 3 individus, dont un beau-frère, Aimé Ilambona, ont été condamnés à la prison à vie. L'ancien responsable des Imbonerakure purgera 21 ans de prison ferme au moment où son ancien garde de corps va passer une année en prison. Un sixième prévenu qui a plaidé coupable a écopé de 6 mois d'emprisonnement. Signalons que les personnes condamnées à perpétuité ainsi que Ilambona Aimé devront verser un dédommagement moral et matériel à la famille de la victime de plus de 5 millions de francs burundais.
Parfait Moudassigana. Dans cette même province de Gitega, un homme a tué la nuit dernière son épouse et son enfant à l'aide d'une houe. Le présumé assassin a été arrêté. Il attend d'être jugé dans un procès de flagrance d'après une source au parquet de Gitega. Des agriculteurs qui vendent leurs vivres au marché central de Muyinga grognent contre le paiement d'une double taxe communale sur leurs produits vivriers. Les mécontents, qui proviennent des communes limitrophes de celles de Muyinga, indiquent qu'ils se rendent au marché central de Muyinga après avoir payé la dite taxe dans leurs communes respectives. Emmanuel Ndaichimie.
Les agriculteurs amenant de la banane et légumes, de la patate douce, du manioc, doux ou amer font savoir qu'ils sont obligés de payer deux fois la taxe, alors que la réglementation en vigueur sur la taxe communale prévoit un paiement unique de la taxe sur les vivres. Les commerçants du charbon de bois en provenance de la commune Gitaramuka, en province de Karusi, Mwakiro et Winyuza en province de Muyinga, se sentent également lésés par cette double taxe. Son non-respect des textes instituant la taxe communale est à la base de la montée des prix des produits vivriers, déplorent les consommateurs. Ces commerçants demandent à l'administrateur de la commune de Muyinga d'instruire ses précepteurs de taxes à ne plus imposer la taxe à ceux qui l'ont déjà payée.
Comment prévenir la Covid-19 dans les milieux carcéraux? Mettre à la disposition des détenus du matériel adéquat pour se protéger contre la Covid-19. Sensibiliser les détenus et garantir les conditions propices pour la prévention de la Covid-19. Port de masque et tests obligatoires pour les nouveaux arrivants. Faire des tests de masse réguliers aux détenus et isoler les détenus infectés afin de protéger les autres. Limiter les visites et les mouvements des détenus libres afin de protéger tout le monde. respecter les droits reconnus par les textes nationaux et internationaux aux détenus et surtout le droit à la santé.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agateka Kawe,
en partenariat avec Internews, financé par l'Union européenne.
La suite de cette édition avec la grogne de près de 400 agents enquêteurs. Ils disent avoir effectué en septembre 2019 une enquête sur les abandons scolaires pour le compte de la fondation Niyongabo. Mais jusque-là, ils n'ont pas encore perçu les honoraires promis. De son côté, le représentant légal de cette organisation qui s'occupe de la scolarisation des enfants démunis affirme qu'il a honoré ses engagements. Francine Kanyang s'est penchée sur ce dossier.
Ils sont 385 à avoir réalisé cette enquête sur les abandons scolaires du 6 au 20 septembre 2019 en tant que volontaires. Ils réclament à la fondation Niyongabo les frais de déplacement équivalents à 150 000 francs burundais chacun.
Ça fait des ans, demandons à la fondation de nous rembourser nos frais de déplacement qui équivaut à 150 000 par chacun.
Docteur Jean-Marie Niyongabo, président et représentant légal de cette fondation, explique que cette organisation ne doit plus rien à ces personnes.
Avant l'enquête, nous avons donné une somme de 7 500 et après la remise des données, nous avons donné un montant de 7 500 pour totaliser 15 000 francs par personne. Après, nous avons fait une réunion avec nos représentants. Ils nous avons dit qu'ils ont donné le montant. Ils pouvaient contacter nos représentants provinciaux pour faire une réunion dirigeante et pour pouvoir résoudre cette question.
Ces arguments ne sont pas convaincants selon les personnes qui ont effectué cette enquête. Ils estiment que c'est une façon pour ce responsable de se tirer d'embarras parce qu'il n'a jamais donné cet argent.
Merci Francine Kanyangé. Un test a été organisé ce jeudi pour les lauréats des écoles dites d'excellence. Ceux qui réussiront à ce test seront orientés dans des facultés, instituts ou départements de l'université du Burundi qui sont considérés comme des filières d'excellence. Gaspard Banyanyimbona, le ministre de l'Éducation, explique pourquoi un tel test est organisé.
Ce n'est pas pour la première fois que nous organisons des tests d'entrée dans certaines facultés de l'université. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que le test coïncide avec l'orientation à l'université des premiers lauréats des écoles d'excellence. C'est comme une habitude dans tous les systèmes d'enseignement. Quand vous avez dispensé une séance, vous devez faire son évaluation pour voir comment la matière a été absorbée. C'est donc une certaine forme de complément pour ces écoles d'excellence. Il n'y a pas eu la création en conséquence des universités d'excellence, car nous considérons que toutes les universités sont toutes d'excellence, mais il y a des facultés et instituts que nous pouvons nous permettre de qualifier comme des filières d'excellence. Et c'est dans ces domaines que nous voulons que soient formés les plus intelligents des lauréats, que sont ces deux écoles d'excellence. Nous sommes en train de les mettre sur le tamis afin de bien sélectionner ceux qui vont fréquenter ces filières d'excellence. Le pays en bénéficiera aussi quand les médecins, les ingénieurs civils et agronomes, ainsi que ceux qui vont fréquenter le département des statistiques, se seront bien intelligents.
Le ministre Gaspard Banyanyimbona tranquillise en outre en ce qui concerne des suspicions de fraude de cet examen.
Ceux qui sont chargés de confectionner ce test le font à huis clos jusqu'à la passation de l'examen. Et lors du convoi, ces examens sont très fermés avec des cadenas spéciaux et seuls les directeurs de centres de passation disposent des clés pour l'ouverture. Et l'ouverture jour de la passation de l'examen est solennelle en présence des candidats et des journalistes. Vous avez vu que c'est moi qui ai ouvert les cadenas. Nous faisons de notre mieux pour qu'il n'y ait pas de fraude de ce test.
Le ministre a été traduit par Bonfils Nyongere. Le test s'est déroulé dans 6 centres éparpillés à travers le pays par plus de 1800 lauréats. La mauvaise gestion des entreprises publiques n'est pas de la faute du personnel. Il faut chercher les failles dans la chaîne de responsabilité qui comprend des institutions étatiques. L'analyse est de Faustin Douimana, expert économiste. Faustin Douimana qui pointe du doigt les organes chargés de veiller à la bonne gestion des avoirs de l'État dans ces entreprises publiques. On l'écoute.
Le leadership des entreprises publiques, normalement, c'est la direction, oui, mais aussi, il y a le conseil d'administration qui est responsable de la gestion, il y a le ministère de tutelle, Et je crois que quelque part même, le directeur général de la région ne peut pas prendre certaines mesures sans l'aval du conseil d'administration ou au cas échéant du ministère de tutelle, à travers même le gouvernement en entièreté. Et aussi, on peut se demander pourquoi les institutions de contrôle de la gestion des finances publiques ou des entreprises publiques ne sont pas mises en contribution. Ce sont des entités qui doivent produire des rapports annuels sur la gestion des fonds publics dans les entités où le gouvernement a mis des fonds. Pourquoi ces institutions ne sortent pas des rapports réguliers pour permettre à prendre des mesures préventives et à temps? Je me souviens même qu'il y a eu un audit, je crois, organisationnel et financier de la Ligue des Arts en 2013, où on avait prôné pas mal de recommandations, mais ça a resté lettre morte. Et je me souviens qu'à l'époque, nous, on a dû revoir l'augmentation des prix et de l'électricité et de l'eau, mais ça n'a pas changé. Quelque part, il y a des problèmes structurels auxquels il faut trouver une solution. On a parlé des problèmes récurrents, par exemple, de la Régie des Eaux, notamment les dettes de l'État envers la Régie des Eaux. Il y a le réseau de distribution, le réseau d'installation qui est très vieux, qui occasionne 30% de pertes en électricité distribuée. C'est énorme comme perte. Il y a des stocks non utilisés, approvisionnement des stocks non utilisés. Il y a des fois les frais du personnel au niveau de recrutement qui seraient peut-être consistants. Il y a des contrats qu'on dit qui ont été signés mais qui sont en défaveur de la Régie des Eaux. Tout cela nécessite une analyse minutieuse.
Pour terminer, le Covid-19 a eu des répercussions sur les commerçants burundais du camp de réfugiés de Mahama au Rwanda. Ils avouent avoir perdu au moins 10% des bénéfices qu'ils réalisaient avant la pandémie. Les plus touchés sont les cabaretiers qui n'ont plus le droit de laisser les clients consommer sur place. Écoutez le témoignage de l'un d'eux.
Normalement, depuis l'annonce de l'existence du Covid-19, beaucoup de choses ont changé par rapport à nos activités quotidiennes. Les principaux inconvénients sont liés au fait qu'il n'y a plus d'argent parce qu'il n'y a plus de clients. Si un client remarque qu'il y a vide d'hommes au marché, il ne se sent pas à l'aise. Si c'est par exemple dans un cabaret, il ne peut pas s'asseoir car il est seul. Il préfère acheter une ou deux bouteilles et rentrer avec. Mais s'il y trouve des amis, il peut prendre deux ou trois parce qu'il est avec les autres. J'ai beaucoup perdu parce que avant le Covid-19, je réalisais un bénéfice de 500 000 francs rwandais tous les 3 mois. Mais actuellement, je gagne difficilement 50 000 francs rwandais par trimestre. Ce que nous demandons pendant cette période du Covid-19, c'est que le HCR ou une autre association puisse nous soutenir et nous aider.
Fin de cette édition. Merci à Théodomire Manilambona pour sa partition technique, ainsi qu'à toute l'équipe de la rédaction de la radio Inzamba Agathe Kakaoué pour la production de ce journal. À toutes, à tous, merci pour votre fidélité. Portez-vous bien.